Bonjour à tous, bienvenue sur Inter. Nous sommes le jeudi 27 août. Agnès Soubiran, bonjour.
Bonjour.
À la une de l'actualité ce matin, aux États-Unis, la bavure policière dans le Wisconsin prend une tournure politique en pleine campagne pour l'élection présidentielle, avec la mobilisation de l'extrême droite et le mouvement de protestation, notamment dans le monde du sport. Nous serons à Kenosha dès le début du journal, après les autres titres, Agnès.
La rentrée en France, J-5, nous verrons comment les chefs d'établissement se prépare. Le nombre de nouvelles contaminations reste à un niveau élevé en France, mais faut-il réellement s'en inquiéter? L'optimisme de certains chefs d'entreprise à l'université d'été du MEDEF et de 5 pour les Lyonnaises qui joueront dimanche leur 5e finale d'affilée en Ligue des Champions.
Les invités de France Inter ce matin à 7h50, Léa Salamé.
On l'appelle la Jeanne d'Arc de Biélorussie. Elle a présenté sa candidature surprise à la présidentielle d'une des dernières dictatures d'Europe, la Biélorussie. Elle a entraîné avec elle depuis 3 semaines un immense mouvement de contestation. Svetlana Tikhanovskaya nous accorde un entretien exclusif sur France Inter. Elle sera avec nous à 7h50.
Et à 8h20, le grand entretien de la matinale avec le ministre de l'Éducation nationale, de la jeunesse et des sports, Jean-Michel Blanquer, qui dialoguera avec vous. 01 45 24 7000.
France Inter.
Ce sont des images qui rappellent des heures sombres de l'Amérique. Des milices armées d'autodéfense face à des manifestants qui réclament les mêmes droits pour tous. Affrontements qui ont dégénéré dans la nuit de mardi à mercredi dans la ville de Kenosha dans le Wisconsin. 2 manifestants ont été tués. Un adolescent de 17 ans soupçonné d'être l'auteur des tirs a été arrêté. L'enquête se poursuit. Mais depuis dimanche, la tension est très vive dans cette ville où un père de famille afro-américain a été grièvement blessé par un policier blanc. Hier soir encore, des habitants sont descendus dans la rue malgré le couvre-feu. Reportage de l'envoyé spécial de France Inter à Kenosha, Louis Glory.
Depuis quelques jours, Kenosha, 100 000 habitants, ressemble à une ville fantôme. Dans le centre, pas un chat et des façades barricadées. Matt, qui possède une boutique, ne veut entendre parler ni des manifestants ni des miliciens.
On a passé des heures et des heures à faire de notre centre-ville un endroit pour vivre, travailler, s'amuser, pour que notre communauté s'y sente bien. Et une partie de ce travail a été défait en à peine quelques nuits.
Un peu plus loin, une grosse centaine de personnes se sont encore rassemblées devant la cour de justice du comté. C'est ici que des affrontements ont éclaté la veille. Des événements qui sont dans toutes les têtes, dit Thomas.
La nuit dernière, j'ai vu un peu ce qui s'est passé, notamment avec ces putains de milices. Pardon, mais je suis un peu nerveux à cause de tout ça. Puis aussi du renforcement des troupes fédérales.
Mais pas de police ou de miliciens en vue hier soir. Roger, venu lui aussi braver ce couvre-feu, s'en félicite. Il explique qu'il y avait dans les violences de la veille une dimension politique.
On connaît la mentalité de ces gens. Notre président leur a permis de croire qu'ils pouvaient prendre l'initiative et agir de façon cruelle, sans risquer la moindre conséquence.
Le symptôme d'une Amérique divisée et des électeurs sur lesquels Donald Trump compte pour l'emporter le 3 novembre. Kenosha, Loïc Loury, France Inter.
Et l'affaire prend effectivement une dimension politique avec le mouvement initié par plusieurs joueurs de basket. Nous sommes fatigués de ces meurtres et de l'injustice, ont expliqué les joueurs de Milwaukee qui ont refusé de jouer contre Orlando. Dans la foulée, plusieurs matchs de NBA ont été annulés. Un boycott historique qui a fait tache d'huile. Le tournoi de tennis de Cincinnati est suspendu pour 24 heures. Quant à l'enquête, il semble que Jacob Blake avait un couteau dans sa voiture, mais pas d'arme à feu. En Nouvelle-Zélande, le tueur des mosquées de Christchurch qui avait abattu 51 fidèles musulmans en mars 2019 a été condamné à la prison à perpétuité. Durant son procès, ce suprémaciste blanc n'a exprimé aucun regret. La première ministre néo-zélandaise lui a souhaité une vie de silence absolu et total.
Il est 7h04 en France. Agnès, les modalités de la rentrée des classes se précisent.
Un masque pour tous les enseignants, y compris en maternelle. Un masque pour les élèves à partir de 11 ans. Des services de cantine étalés au maximum. Des récréations en groupes séparés. Le cadre a été fixé hier par le ministre de l'Éducation nationale, Jean-Michel Blanquer, qui sera l'invité du 7-9 d'Inter tout à l'heure à 8h20 pour plus de précisions, car une marge de manœuvre est laissée à chaque établissement en fonction de la situation locale. Alors comment ces chefs d'établissement s'organisent? Sonia Princey leur a posé la question.
L'organisation de la rentrée n'est pas totalement bouclée dans les établissements scolaires. Directrice d'une école maternelle, Isabelle Alias a ce sentiment inédit et perturbant de ne pas être prête à quelques jours seulement de l'arrivée des enfants.
J'ai beaucoup d'appels de parents qui sont inquiets, qui veulent savoir comment ça va se passer. Je suis pas encore capable de leur dire. Il manque le détail, hein, il manque la conduite à tenir, ce que nous allons devoir mettre en place dans les écoles. Il manque l'essentiel, j'ai envie de dire. Je suis assez en colère d'ailleurs de ça. Je pense qu'on aurait pu profiter de ces deux mois d'été pour anticiper. On connaissait la date de la rentrée, hein. On ne savait pas exactement dans quel contexte ce serait, c'est vrai. Mais le ministère aurait dû réfléchir avant.
Mais les personnels ont à cœur de réussir cette rentrée pour leurs élèves. Jean-François Véran du syndicat SNPDEN est principal d'un collège à Marseille.
Tous les détails ne sont pas encore résolus, mais globalement nous sommes prêts, oui, à accueillir les élèves. Je pense qu'avec la longue rupture de scolarité, je dirais traditionnelle, de présence en établissement, il est utile que les élèves puissent retrouver, j'allais dire, le cadre scolaire normal, comme tout le monde rentre en étant masqué et en se désinfectant les mains. Mais on va essayer de faire en sorte que ça se passe au mieux.
Le ministre doit encore faire des recommandations sur les récréations, la cantine, les cours de PS, les internats. Mais c'est un peu tard pour les établissements.
L'UNICEF, de son côté, s'inquiète des conséquences de la pandémie sur la scolarisation des enfants. 463 millions d'élèves dans le monde ont été privés de classe ces derniers mois, soit un élève sur trois sur la planète. Les chiffres de l'épidémie en France restent mauvais. Plus de 5000 contaminations au cours des dernières 24 heures. Un record depuis mi-avril. Mais Jean-Paul Ortiz, président de la Confédération des syndicats médicaux français, tient à relativiser.
Ça montre simplement que le virus circule et que les mesures barrières ont probablement été un petit peu abandonnées avec la période d'été. Il faut aussi tenir compte du fait qu'aujourd'hui, nous testons beaucoup plus de patients et n'oublions pas que sur les positivités, il y en a environ 1 sur 2 qui est totalement asymptomatique. Or, au moment de l'épidémie, en mars, avril, mai, on ne testait même pas l'ensemble des patients symptomatiques. Donc, il faut tenir compte de ces deux éléments, mais indiscutablement, le virus continue à circuler et indiscutablement, il y a beaucoup plus de positifs aujourd'hui que ce que nous avions il y avait encore 2, 3 ou 4 semaines.
Un propos recueilli par Nicolas Teilhard. Le ministre de la Santé, Olivier Véran, sera cet après-midi à Marseille, où les mesures de restriction sont entrées en vigueur hier soir. Une fermeture des bars et des restaurants à 23h, envisagée également à Paris et dans la Petite Couronne. Le Premier ministre et la ministre de la Culture reçoivent de leur côté aujourd'hui les représentants du monde du spectacle vivant, frappés de plein fouet par la crise. Hier matin, sur Inter, le chef du gouvernement a annoncé une enveloppe de 2 milliards d'euros pour la culture et le port du masque obligatoire au cinéma et au théâtre. Dans ce contexte, de nombreux rassemblements familiaux, mariages, baptêmes, anniversaires sont annulés ou reportés. Certaines mairies ont même interdit toutes les fêtes dans leur salle communale par mesure de précaution. Yann Gallic.
Depuis un an, Leïla se démène pour organiser une cousinade et rassembler sa famille éparpillée dans toute la France. Une quarantaine de personnes au total. Tout était prêt pour ce week-end festif prévu début octobre dans un château loué en Normandie. Mais avec l'épidémie de coronavirus, l'événement pourrait être remis en cause.
On a les grands-parents notamment et nos aînés qui ont plus de 65 ans et qui font partie des personnes vulnérables qui aujourd'hui ne souhaitent plus venir en tous les cas participer à cette cousinade. Nous, ça nous chagrine un peu parce que c'était l'occasion de réunir tout le monde. On a quand même contacté le loueur pour savoir s'il était possible de décaler à un an, donc en 2021, cette fameuse cousinade. On attend toujours la réponse.
Certaines communes font valoir le principe de précaution, exemple à Menroc, en Ille-et-Vilaine, où le maire Thomas Janvier a décidé d'interdire toutes les fêtes familiales dans les salles municipales, au moins jusqu'au 1er octobre.
Tout événement fait mieux et on le sait. Ça brise la proximité et dans lesquelles nous n'avons pas la possibilité en tant que commune de nous assurer des distanciations sociales. On ne pouvait pas se permettre de laisser nos salles ouvertes. C'est vraiment une décision à contre-cœur, mais qui nous semblait la plus adaptée à la situation.
Avec des répercussions sur l'économie et les finances locales, car en interdisant la location de ces salles municipales, la commune perd de l'argent, un manque à gagner qui s'élève à 10 000 euros par mois.
Une vaste opération de police hier soir dans le quartier sensible du Mistral à Grenoble, opération destinée à réaffirmer l'autorité de l'État. Après la diffusion sur Snapchat de vidéos montrant des dealers encagoulés et lourdement armés, l'État s'imposera face à l'ensauvagement d'une minorité de la société, a tweeté le ministre de l'Intérieur qui a directement diligenté cette opération de police. Nous y reviendrons dans le journal de 8h.
Il est 7h09, Agnès. Suite et fin de l'université d'été du MEDEF.
Le rendez-vous annuel des patrons qui réunit 3000 participants participants à l'hippodrome de Longchamp, c'est 20% de plus que l'an dernier. Le Premier ministre a présenté hier les grandes lignes du plan de relance de 100 milliards d'euros qui sera officialisé mercredi prochain. Ce matin, c'est le ministre de l'économie Bruno Le Maire qui doit s'adresser aux chefs d'entreprise. Si certains sont inquiets pour l'avenir de leur société, d'autres restent optimistes. C'est le cas de cette chef d'entreprise lyonnaise rencontrée par Delphine Simon.
Depuis le confinement, son activité a le vent en poupe. Émilie Le Goff est la créatrice d'une PME lyonnaise d'édition de logiciels. Pas besoin de coup de pouce sur le chômage partiel, car son entreprise embauche.
Pendant la période du confinement, là par exemple sur avril-mai, j'avais fait mon chiffre d'affaires de l'année 2020. On était 30 salariés au début du confinement, on était 45 à la fin.
À 40 ans, celle qui préside la French Tech lyonnaise se montre donc optimiste, comme les trois quarts des entrepreneurs selon un sondage du MEDEF. Elle a malgré tout accepté le prêt garanti par l'État, par précaution.
On a quand même des incertitudes à tout niveau. Donc on se dit au moins on a ce matelas-là, ça amortit un peu le choc.
Le Premier ministre veut flécher l'investissement sur les PME, baisser les impôts de production et donner de l'autonomie au territoire. C'est de bon augure, dit-elle. Mais attention, il va falloir rembourser.
Tous ceux qui ont pris les prêts garantis par l'État, que ce soit dans des petites boîtes, ils ont l'impression que c'était cache-machine. Tout va bien, en fait, ça masque un petit peu les problématiques. Mais voilà, est-ce qu'on va réussir à rembourser et à sortir indemne de tout ça, quoi.
En attendant, le télétravail, la conduite à un choix radical.
Pendant le confinement, donc, nous, on a gagné en productivité, 15 à 20% de productivité en plus. Pas de temps de trajet, pas de pause café, déjeuner plus raccourci, etc. C'est tellement bien passé que j'ai laissé tout le monde en télétravail et qu'on a consolidé ça. Donc j'ai lâché mes bureaux. Et on est passé en full remote, c'est-à-dire 100% de télétravail pour tout le monde.
Le 14 septembre, elle rendra donc ses 350 mètres carrés de bureaux.
Un reportage de Delphine Simon. Et ce sont les Lyonnaises qui porteront les espoirs français en finale de la Ligue des Champions. L'OL a en effet battu le PSG 1-0 hier soir en demi-finale à Bilbao. Un match plutôt équilibré, mais l'expérience des sextuples championnes d'Europe a fait la différence, Jérôme Val.
Le football féminin est un sport qui se joue à 11 contre 11 et à la fin, c'est toujours Lyon qui gagne. Ce mantra s'est une nouvelle fois vérifié hier soir. Un seul but a suffi aux Lyonnaises pour se qualifier pour une nouvelle finale européenne, celui de la capitaine Wendy Renard.
Après 5 mois d'arrêt, c'est pas facile ce genre de match, il faut se faire violence et on l'a fait. Notre joie, elle est logique parce qu'on arrive en finale et encore une fois, c'était pas facile.
Le Paris Saint-Germain, vaillant malgré tout, a craqué. L'entraîneur parisien Olivier Chouafny, lucide après la rencontre. Le PSG est tout proche, mais pas suffisamment pour faire la différence.
Ça passe pas loin, mais c'est le haut niveau, je leur disais dans le vestiaire. Ça se joue sur une joueuse qui aujourd'hui fait 1m87, qui est capable de monter à plus de 2 mètres sur un coup de pied arrêté. Bon, voilà.
Son homologue de l'OL, Jean-Luc Vasseur, racontait après le match être impressionné par cette soif de victoire inextinguible de ces joueuses, jamais rassasiées.
Ça, c'est quelque chose d'impressionnant que j'avais jamais vu auparavant.
Elles vont disputer leur 9e finale de Ligue des Champions, la latérale Sakina Karchaoui.
C'est le mental, tout simplement. Quand on a le mental dans un match, on gagne tout. Je suis vraiment fière de faire partie de cette équipe.
Les Lyonnes vont retrouver en finale les Louves de Wolfsburg. À elles deux, ces équipes se sont partagées tous les titres européens depuis presque une décennie.
Et la finale, ce sera donc dimanche à 18h à San Sébastien, en Espagne.
Merci Agnès Soubiran.